Dieu. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Comme je viens de le dire, nous avons une pensée aussi pour les internautes. Nous sommes en direct sur le site de Facebook, puisque nous avons un site sur l'Église. Et voilà, c'est l'occasion de pouvoir voir des frères et sœurs se rejoindre, joindre à nous en cette matinée. Que le Seigneur les fortifie, les bénisse et que la grâce de Dieu soit sur eux. Alléluia. Merci Seigneur. Le message, la prédication que je voudrais vous apporter en ce jour a comme titre « L'incertitude confiante ». Je vais vous parler de l'incertitude parce que c'est un sujet qui nous touche personnellement à chacun d'entre nous à un moment donné dans notre vie. On va forcément se retrouver dans l'incertitude. Un deuil, une maladie, un échec, une situation nouvelle, peut-être une nouvelle saison que nous devons entamer. Et l'être humain a besoin, à ce moment-là, de certitude. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Besoin que les choses soient solides sous nos pieds. Or, l'incertitude fait peur. Et nous avons forcément peur de l'incertitude, de l'inconnu. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, comment les choses vont avancer. Et avec cette impression, finalement, face à cette incertitude, que le sol se dérobe sous nos pieds, on n'arrive plus rien à maîtriser. Et c'est vraiment embêtant de se retrouver dans cette phase d'incertitude. Et pourtant, l'incertitude est une partie de notre condition. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, parce que là je parle directement à des chrétiens, à des hommes de foi, nous, on va se retrouver tout au long de notre vie entre la certitude et l'incertitude. Il y a des moments où on va être certain de certaines choses, et d'autres moments où on va se retrouver dans le flou, dans, comme je viens de le dire, dans l'incertitude. Et pourtant, nous sommes des hommes, des femmes de foi. Mais vous allez voir que ce n'est pas incompatible d'être dans l'incertitude tout en ayant la foi. Et on va expliquer ça ensemble. C'est vrai que l'incertitude n'est pas familier dans le vocabulaire. Même je dirais que pour certains chrétiens, c'est tabou de parler d'incertitude. Parce qu'aller voir quelqu'un, aller voir un frère, une sœur, aller vous confier, aller lui dire, tu sais mon frère, je suis vraiment dans l'incertitude. Il va te dire, ah c'est peut-être que tu n'as pas de foi, ah c'est peut-être que tu n'as pas de certitude, tu ne lis pas assez la Bible, tu ne pries pas assez. Et on va peut-être te reprocher des choses et tu vas te retrouver peut-être dans cette insécurité face à l'incertitude. Alors que le Seigneur voudrait te montrer peut-être autre chose. Et là, je pose une question, la foi n'est-elle pas la confiance au cœur même de l'incertitude ? Parce que si tu étais certain, tu n'aurais pas besoin d'avoir la foi. Or, c'est dans cette incertitude que nous crions à Dieu. La Bible nous dit « quand un malheureux crie, l'Éternel entend ». Quand on se retrouve face à un malade, alors qu'il est là, gravement malade, on ne sait pas s'il va quitter ce monde, s'il va rester. Quand on va le voir, on est dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas si Dieu va le guérir. Mais on va activer notre foi. On va prier au nom de Jésus. À la fin, où on reçoit une parole de Dieu, où on ne la reçoit pas, et là on se tait, et on est dans l'incertitude. Mais on a activé notre foi. Et Dieu fera ce qu'il voudra avec cette personne. Alors si on reçoit une parole de Dieu, tant mieux. Dans ces cas-là, on dit, voilà, le Seigneur m'a montré que il va te guérir, tu vas te relever, tu vas bénir le Seigneur. C'est très bien. Mais quand on n'a rien reçu, il vaut mieux se taire. Et là, on est dans l'incertitude. Mais on aura activé notre foi. L'incertitude confiante. Je vous donne un autre exemple. Dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce que vous savez exactement ce que vous allez faire ? C'est l'incertitude. On est dans l'incertitude, mais tu restes confiant. Confiant à un Dieu alors que tu ne sais même pas où tu vas. Et c'est ça qu'il faudrait vraiment qu'on prenne conscience ce matin du fait qu'on a le droit d'être dans l'incertitude. On a le droit de savoir exactement ou ne pas savoir exactement où l'on va. Et on va avancer comme cela au fur et à mesure dans notre vie, mais on va faire confiance à Dieu, on va s'appuyer sur le Seigneur. Il y a quelqu'un ici ce matin dans ce lieu qui est tombé dans ce piège, où tu es dans cette incertitude, mais le diable t'a culpabilisé. Et cette incertitude te dit, mais si je suis dans l'incertitude, c'est qu'il me manque la foi. Non, pas du tout. Je viens de te le montrer. Tu as le droit d'être dans l'incertitude parce que tu ne sais pas où Dieu veut t'amener, mais tu fais confiance au Seigneur. Mais tu as la peur. Tu es dans l'inquiétude. À cause de cela, le diable te mine, parce qu'il te dit, si tu es incertain, c'est que tu n'es pas assez divin, tu n'es pas assez dans les choses de Dieu, tu n'es pas assez dans la volonté du Seigneur, c'est que tu n'as pas assez prié, c'est que tu n'as pas assez lu la Bible, c'est que tu n'as pas donné ta Bible, c'est parce que tu n'as pas fait ceci, que tu n'as pas fait cela, et le diable te culpabilise ce matin. Il te culpabilise face à cette incertitude et tu es dans la crainte et tu es dans la peur. Et Dieu voudrait te dire maintenant qu'il faut que tu te positionnes par rapport à ça. Celui qui est ferme dans sa position, Dieu assure la paix. Il faut que tu te positionnes parce que l'incertitude dans laquelle tu vis, elle est divine, elle vient de Dieu. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu as confiance en Dieu. Tu ne sais pas comment les choses vont se dessiner, mais tu regardes au ciel. Tu ne regardes pas aux situations présentes, mais tu regardes au divin, au royaume de Dieu. Alors tu retires cela de ton cœur maintenant, et tu vas continuer à écouter ce message parce que je pense que Dieu veut te parler au travers de cela. Regardons tout ça. D'abord l'incertitude. Nous avons besoin de savoir où l'on va. Et c'est vrai, c'est légitime de planifier notre avenir, de construire nos repères, parce qu'on a besoin de mettre des points de repères dans notre vie, de maîtriser les circonstances. Ah, la maîtrise. Maîtriser. On veut essayer de tout maintenir. Et en fait, la certitude nous rassure, et c'est légitime, c'est humain. Mais je vais vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que la certitude est parfois trompeuse. Là où l'incertitude est vraie, il nous est arrivé, je ne sais pas pour vous, mais il est arrivé d'être certain d'une chose et finalement ça ne s'est pas passé. Non ? Vous, ça vous est arrivé ? Alors que d'autres choses, bon, ben là, bon allez, on y va vraiment par la foi, mais je ne suis pas certain, la chose s'accomplit. C'est pour ça que je voulais vous dire par là que tout simplement, quand on est dans l'incertitude, on est parfois dans ce divin, on est dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Vivre dans la certitude nous rassure, c'est vrai. Les gens ont besoin d'un parachute. Vous savez, on parle de parachute doré. Ça, c'est autre chose. Hein, il y en a qui veulent se rassurer avec l'argent. Mais le Seigneur, lui, nous montre qu'on peut juste s'appuyer sur lui, se rassurer sur Dieu, sur sa parole. Et puis, un jour, cette certitude se fissure. Non pas que le monde ait changé autour de nous, mais c'est toi qui as changé. C'est ta vie qui a changé. Tu es en train d'activer chez toi quelque chose de particulier pour aller plus loin parce que tu en as marre de rester dans cette zone de confort. Alors tu passes par une nouvelle saison, c'est ce que je prêchais il y a encore quelques temps de cela. Tu as envie d'avancer, de faire le pas de foi et à partir de là, les choses changent sur ta vie. Alors bien sûr, à partir de ce moment-là, on est comme désorienté. On perd le nord, le sud, l'est, l'ouest et tout disparaît. On perd tous ses points de repère. Tout ce qu'on avait mis en place pour se rassurer, pour s'appuyer. Et nous demandons de quel côté aller, quelle direction prendre. Comme suspendu dans le vide. On ne maîtrise plus rien. Excusez-moi l'expression, mais ça fait flipper ça. Non ? Ça nous fait paniquer ça. Et on ne comprend pas. Et vous savez, quand on se retrouve dans cette situation, il est difficile d'en parler avec un frère. Difficile d'exprimer cela parce qu'on se rend vulnérable, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va dire sur nous, s'il va nous juger, sur notre état, sur notre position. Ça nous met dans une situation embarrassante. Et finalement, dans ces circonstances, il n'y a que Dieu. Ou peut-être quelqu'un qui vit la même situation, la même expérience que toi. Et alors là, vous allez vous comprendre. Et là, c'est là où tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu n'es pas un être bizarre. Tu es juste un chrétien qui rentre dans les normes divines, qui rentre dans la destinée, qui rentre dans ce à quoi Dieu veut l'appeler. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Et là, il est en train de comprendre finalement ce qu'il est en train de se passer dans son cœur. Et Dieu permet le vide pour que qu'il ne reste rien sur quoi t'appuyer, mais sur qui t'appuyer. Il faut que tu brises tout ce sur quoi tu pouvais t'appuyer jusqu'à maintenant. Ces repères, ces détails, ces appuis-là, tu veux t'accrocher à tout et à n'importe quoi. Et Dieu veut balayer, veut nettoyer, veut arracher toutes ces choses-là pour que tu puisses t'appuyer sur qui tu crois. Et c'est ça qui n'est pas évident. Parce que parler de la foi, c'est une chose, la vie, c'en est une autre. Mais vivre par la foi, c'est aussi rentrer dans une zone, je dirais, inconfortable, dans une zone d'insécurité. D'insécurité pour toi, c'est le sentiment que tu as, mais en fait, Dieu te protège. Mais ça, on ne le ressent pas forcément sur le moment. Et c'est ça qui est désarmant. Il faut s'attendre à ça, afin que l'horizon s'élargisse, afin que Dieu t'ouvre une voie par excellence. Alors pour cela, j'ai pensé à deux hommes. D'abord, Abraham. Dans Genèse, au chapitre 12, verset 1er, vous connaissez bien ce texte, où il dit ceci: « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » C'est ça qui est embêtant, je te montrerai. Seigneur, si tu pouvais dire maintenant ce que tu veux pour moi. Ce récit nous montre comment la confiance peut trouver place dans une parfaite incertitude. C'est quelque chose d'extraordinaire. La seule certitude d'Abraham, c'est qu'il est invité à abandonner sa zone de confort. Il quitte sa famille, son pays, sa patrie, tous ses repères, et il fait confiance à Dieu pour lui seul. Et Jésus, enfin, l'Éternel, il est fort dans ce qu'il dit. Il dit, va-t'en, pars, quitte, c'est bon, ça y est, tu tournes la page, fonce, il faut y aller maintenant. Et finalement, il y a un impératif. Il y a un impératif et il s'arrête là, il lui dit, explique pas comment il faut faire. Et peut-être moi, à la place d'Abraham, je lui dis, écoute Seigneur, j'aimerais bien avoir un entretien avec toi, qu'on puisse discuter ensemble. Parce que ok, d'accord, je pars, mais où ? T'inquiète, avance. Oui, mais Seigneur, juste un petit détail, un petit signe, avance. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on est dans l'incertitude, on cherche des signes de partout. Même là où il n'y en a pas. On essaie de tirer un don spirituel alors que c'est juste une prière. C'est incroyable. Et c'est ça qui est dangereux. Mais si Dieu te met dans l'incertitude, ce n'est pas pour essayer de te mettre de la certitude à ce moment-là. Et il dit, va-t'en, pars, avance, t'inquiète pas. Parce que c'est ça, cette démarche de foi. Et c'est un geste inouï à une époque où les gens n'existaient que par l'appartenance à sa communauté. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de dépouiller Abraham. Lui qui existait par sa communauté, il dit, maintenant tu ne vas plus exister. Toi qui t'attaches sur ta famille, sur ta patrie, sur ta culture, sur tout ce que tu veux, qui est pour toi, qui te donne un sens à ta vie, Dieu va le retirer. Pour te faire entrer dans une zone inconfortable, où tu n'as plus de repères, sur qui tu ne peux plus t'attacher. Et c'est ça qui est désagréable, et finalement, Dieu permet cela pour changer le cœur d'Abraham. Il perd ses repères, il perd son appartenance, mais plus que cela, il perd une partie de son identité. Et c'est parce qu'il a accepté de perdre ces choses qu'il est passé de Abraham à Abraham. Il est allé beaucoup plus loin. Le Seigneur a changé sa vie. Il n'a pas seulement été le père de ses enfants, le mari de son épouse. Il n'a pas été juste là pour sa fratrie. Il est allé au-delà. Et il y a combien de chrétiens aujourd'hui, de frères et sœurs, qui veulent aller au-delà, tout en ayant la bénédiction dans leur foyer. Mais le Seigneur te dit, si tu veux aller au-delà, il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes cette zone. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu aies peur de perdre ton identité pour rentrer dans l'identité de Christ. Et c'est ça qui est difficile à vivre. C'est de perdre cette identité à nous parce qu'on l'a cherchée de tout notre cœur. On a essayé de prendre, je dirais, des points de repère pour essayer d'exister. Et parfois, on n'est que l'ombre de nous-mêmes. Et on se dit, ah ça y est, j'ai trouvé mon identité. Je la garde, je vais la chérir. Sauf que le Seigneur, il veut t'amener plus loin. Et pour t'amener plus loin, il va te dire, tu vois cette identité que je t'ai donnée à un moment donné de ta vie. Tu en avais besoin. Maintenant, il faut que tu la lâches. Parce que je veux t'en donner une autre plus grande. Et tu as eu du mal à prendre la première et tu n'as pas envie de la lâcher parce que tu te dis, j'ai tellement donné pour celle-là. J'ai tellement payé pour celle-là. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement cherché la face de Dieu. Seigneur, je ne sais pas, je ne peux pas. Et Dieu te dit, oui, tu peux. C'est que juste que tu ne veux pas. Tu as payé peut-être le prix, mais le Seigneur l'a payé plus grand pour toi. Et Dieu voudrait que tu lâches vraiment ça et que tu cherches à aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Il devait y avoir une lutte dans le cœur d'Abraham. Il dit, mais Seigneur, si tu m'enlèves tout ce qui fait de moi ce que je suis, qu'est-ce que je veux devenir? Ben tant mieux, c'est ce que je veux. Tu ne vas rien devenir. Tu vas devenir juste un enfant de Dieu. Tu vas devenir juste ce que je veux que tu sois. Et le Seigneur voudrait qu'il en soit de même pour ta vie ce matin. Et c'est pour ça que ça nous fait rentrer dans une zone d'incertitude, mais d'incertitude confiante. Parce qu'Abraham n'a pas discuté, ne s'est pas dit, bon écoute, tant que tu ne m'as pas parlé pour l'avenir, moi je m'assois, j'attends. Des fois on est comme ça avec Dieu, on conteste, on veut absolument une parole, morticule, je dis Seigneur, tant que tu ne me parles pas, je n'avance pas. Sauf qu'en faisant comme ça, tu vas passer à côté de ta destinée. Et c'est pour ça qu'Abraham n'a pas discuté, il a avancé. Il a fait confiance au Seigneur. Et cette identité l'a amené à devenir ce père d'une multitude d'Abraham. Dieu brise l'étroitesse de sa vie. Dieu lui ouvre une voie par excellence et puis en même temps lui prépare un avenir glorieux. Et la preuve, c'est qu'au verset 2, il dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, alléluia, tu seras une source de bénédiction, amen. » Et au verset 3, c'est énorme, « Je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et moi je dis « Amen ». Abraham a compris que le lâcher prise était le meilleur moyen de rentrer dans sa destinée. Alors va-t'en. Ok Seigneur, j'obéis. Va-t'en. Comme je le disais en introduction de ce texte, on aurait tendance à vouloir négocier face à l'incertitude, mais il va obéir. Et ça va lui servir d'obéir. Ça va lui servir parce que le jour où il devait monter sur cette montagne de Morija et qu'il était avec son fils, à un moment donné, son fils il dit « Papa, c'est bien beau tout ça, mais où est le sacrifice ?» Là, il s'est rappelé qu'il fallait faire confiance à Dieu, qu'il fallait tout lâcher. Il dit, t'inquiète mon fils, Dieu pourvoira. Et c'est ça la force. C'est qu'à partir du moment où tu vas faire un pas dans la foi, un pas dans l'incertitude, le jour où tu vas te retrouver dans une zone inconfortable, tu sauras sur qui t'appuyer. Il y a combien de frères et sœurs qui sont aujourd'hui effrayés d'aller beaucoup plus loin parce qu'ils ont toujours voulu rester dans leur zone de confort, de sécurité, avec tous leurs petits repères, avec, je dirais, tous les endroits sur lesquels ils pourront s'appuyer, même jusqu'à l'église. Vous savez, je vous fais une confidence comme cela. La première fois où je suis revenu à l'église, j'étais rétrograde, j'étais jeune dans la foi, et un jour j'ai tout lâché, puis je restais 2 ans loin du Seigneur. Et voilà, vous connaissez un petit peu mon témoignage. Mais le jour où je suis revenu dans l'église, alors que j'avais 18-19 ans, je viens dans une toute petite église, je m'assois là parce qu'il n'y avait personne, j'étais arrivé vraiment, vraiment en avance. Et je reste là dans mon coin, puis j'attends que le culte commence. Puis au bout d'une heure, le culte allait commencer. Et puis au moment où le culte commence, des personnes arrivent, on s'assoit, parce qu'il y en a qui arrivent un peu en retard, ça arrive parfois dans certaines églises. Et là, il y a une personne qui vient et me dit, « Excusez-moi, jeune homme, cette place est à moi. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, il y en a qui sont tellement confortables dans leur petite zone que même leur chaise leur appartient. Vous comprenez ce que je veux dire là ? Et finalement, ils ne veulent pas bouger d'un iota. Alors, ils voient les miracles d'un côté, les prodiges de l'autre. Ils voient des chrétiens être en grâce, en bénédiction, des miracles sur leur vie. Et quelque part, eux-mêmes rentrent dans une forme d'agressivité, commencent à devenir aigris. Il y a une sorte de frustration dans leur cœur parce qu'ils voient la bénédiction chez les autres et pas chez eux-mêmes. Tout ça parce qu'eux n'ont pas voulu bouger. Eux n'ont pas voulu, à un moment donné, se lever et prendre ce risque d'aller de l'avant, de tout lâcher, de tout abandonner et rentrer dans leur destinée, rentrer dans cette zone d'insécurité. Et c'est pour cela que finalement le Seigneur te dit ce matin, mais t'inquiète pas, vas-y, fonce. Et cette expérience va lui servir vraiment en bénédiction et en acceptant cette incertitude confiante. Abraham est devenu le père de la foi. Le père de la foi, parce qu'il est rentré dans une zone d'insécurité confiante. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Je ne comprends pas tout sur mon avenir, sur ma destinée, mais je sais une chose, c'est que tu ne vas jamais me lâcher. On continue ? Ça va jusque-là ? Alors on va aller voir un frère que j'apprécie dans Matthieu chapitre 14. Cet homme s'appelle Pierre. Matthieu chapitre 14, verset 28. Et Pierre dit ceci. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pierre. Ah, ce Pierre. Sorti de la barque, marche sur les eaux. Une des rares personnes à avoir expérimenté ce miracle. Une des rares. Et on s'aperçoit que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien de plus incertain que de marcher sur les eaux, vous ne croyez pas ? Ça, c'est vraiment une incertitude. Et avez-vous remarqué ceci ? Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant quand il dit ça, parce que juste un petit peu avant, les disciples, alors qu'ils étaient dans la barque, ils voient venir apparaître un homme marcher sur les eaux, et ils ont commencé à être effrayés, ils avaient peur, ils avaient toutes sortes de choses. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Ils étaient tous dans la crainte. Et dans cette crainte, il n'y en a que seul qui a eu l'audace de dire, ben écoute, si tu n'es pas un fantôme, si tu es vraiment le Fils de Dieu, permets que j'aille vers toi. Je lui ai dit, vas-y, viens. Vas-y, viens. Quitte ta zone de confort. Quitte tes amis. Quitte ta barque dans laquelle tu es bien en sécurité depuis peut-être des mois et des années. Vas-y, quitte. Viens. Ok, chiche. Il n'a pas dit chiche, hein, mais je rajoute ça, vous savez, il faut combler la prédication. Merci. Mais il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. C'est que Pierre, lui, il a fait le pas. Alors que les autres, ben, sont restés tranquillement dans leur barque. Je dis, vas-y Pierre, c'est bon, tu peux y aller toi, vas-y. Il y a des gens comme ça qui vont rester toujours à vous dire de faire ce qu'eux ne veulent pas faire. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il passe par-dessus bord, il se lance ce défi et il sort de cette zone de confort, il perd ses repères. Mais il y a quelque chose, c'est qu'au verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Écoutez-moi bien. Très vite, son besoin naturel de certitude revient. Lui qui voulait sortir de la certitude, là, de suite à ce moment-là, alors qu'il voit tous les éléments, ce besoin de certitude fait surface. Il regarde à ses pieds le vide, l'incertitude, tout se dérobe devant lui. Il y a comme une crainte qui est là alors qu'il est en train de s'enfoncer. Il s'enfonce, il s'enfonce. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il pense. Moi, j'essaye d'être à sa place. Oups, c'est peut-être pas Jésus. Je suis en train de m'enfoncer, là. C'est peut-être, en fait, véritablement un fantôme. C'est peut-être, finalement, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas le Sauveur. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce texte. C'est que, moi, si ça avait été un fantôme, parce que, finalement, vu que je suis en train de m'enfoncer, j'ai dit, ça ne doit pas être le Seigneur, le premier réflexe, c'est quoi ? C'est de se tourner vers la barque pour appeler ses copains, non ? Vous ne croyez pas ? Mais ce n'est pas le cas. L'incertitude confiante. Écoutez-moi bien, parce que c'est très important ce qu'on dit là. Or que le plus surprenant dans cette situation où c'est le vide et le danger, c'est quand tout se dérobe sous nos pieds que nous regardons vers le haut. Parce que vous savez, quand tout se dérobe sous nos pieds, ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui peut nous aider à ce moment-là, parce qu'il a autant de force que toi, c'est-à-dire pas grand-chose. Parce qu'il n'a aucun pouvoir pour pouvoir t'aider comme le Seigneur peut le faire. Et j'aime bien ce texte, quand un malheureux crie l'Éternel entend. Il le délivre. Il y a la main de Dieu qui est sur lui. L'intervention de Dieu qui est sur sa vie. Et là, il va changer le mal en bien. Et j'aime bien ce texte parce que finalement, c'est quand on est dans les moments difficiles qu'on peut réclamer au Seigneur sa grâce, sa bénédiction, sa puissance, ce miracle. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est quand Jésus lui dit « Homme de peu de foi ». Moi, à la place de Pierre, j'ai dit « Écoute Jésus, oui, mais attends, je suis quand même passé par-dessus bord. Hein. Les autres derrière sont restés tranquilles dans leur coin. » Mais pas un seul instant où Jésus est venu reprocher à ceux qui étaient dans la barque qu'ils n'avaient pas d'audace. Ceux qui n'ont pas d'audace, Dieu les laisse. Ceux qui ne veulent pas aller de l'avant, Dieu va les laisser. Ceux qui veulent rester dans le statu quo, le Seigneur ne va pas s'en occuper. Oh, il va prendre soin d'eux. Hein. Dieu va les fortifier, Dieu va les bénir. Dieu... Mais ils ne pourront pas rentrer dans leur destinée parce qu'ils ne voudront pas passer par-dessus bord. Mais à ceux qui passent par-dessus bord, à ceux qui voudront vraiment avancer et rentrer dans cette zone de miracles, de prodiges, de bénédictions, mais même aussi d'insécurité, le Seigneur, à un moment donné, va le reprocher comme à Pierre, homme de peu de foi. Parce que je crois en toi, Pierre. Pourquoi tu as douté ? Mais ce n'est pas deux pas que tu aurais fait, mais tu en aurais fait 10, 15, 20, 30, 50, 100. Tu aurais fait peut-être des kilomètres sur la mer. C'est pour ça, parce que je crois en toi. Parce que je crois en tes capacités. Parce que je crois en ton audace. Parce que je crois que dans ton cœur, il y a comme un feu dévorant, une flamme. Et mon frère, ma sœur, c'est ce que te dit Dieu ce matin. Il croit en toi. Alors, ne sois pas frustré, ne sois pas blessé. Si tu sors de cette zone de confort, si tu arrives dans cet espace d'insécurité, que Dieu te dise, homme de peu de foi, parce que le Seigneur voit plus loin avec toi. Il voit des choses que toi, tu ne vois pas sur ta vie. C'est pour ça qu'on est dans l'insécurité. mais l'insécurité confiante, parce qu'on sait que Dieu veille sur nous. Pierre savait très bien que si Jésus était là à côté de lui, il allait veiller sur lui. Mais ce n'était pas un reproche, c'était juste pour le stimuler, juste pour lui dire, mais Pierre, mais je crois en toi. Ceux qui sont dans la barque, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent de leur vie chrétienne, mais après qu'ils ne viennent pas se plaindre, qu'ils ne soient pas frustrés, qu'ils ne soient pas blessés de ne pas avoir autant de bénédictions que toi, mais toi, agis, réagis, saisis mes paroles, saisis mes promesses. Puisque tu as fait le pas le plus dur, continue. Puisque tu as fait le pas de foi le plus incroyable, continue. Et c'est ce que te dit le Seigneur ce matin, continue. C'est pas facile, mais continue, avance. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Mais ça va aller beaucoup plus loin tout ça, parce qu'il nous a dit au verset 32, et c'est un détail mais qui est capital. Le vent, c'est ça, parce que finalement, Jésus l'a saisi, Pierre, ils sont montés tous les deux dans la barque avec les disciples qui étaient là, et il nous a dit ceci, le vent, c'est ça. Et ceux qui étaient dans la barque vers adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ah oui, mais c'est facile maintenant de dire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On peut fermer la clim, s'il te plaît, parce qu'il fait trop froid là, merci. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ton pas de foi, ta démarche incertaine à tes yeux, alors que Dieu est avec toi, va impacter ta famille, tes amis, tes proches. Ça va bousculer tous ceux qui sont autour de toi. Ça va avoir un impact non pas seulement sur ta propre vie, mais sur la vie de ces personnes qui t'entourent. Sur la vie de tes amis, de tes proches, de ton époux, de ton épouse, de tes enfants. Tu vas être un modèle pour plusieurs frères et sœurs dans l'Église. Tu vas être cette personne d'influence. Parce que tout simplement, tu seras passé par-dessus bord. Tout simplement parce que tu auras saisi cette foi de Dieu. Oh certes, avec ce côté imparfait de Pierre, parce que nous ne restons que des humains. Mais ça aura touché le cœur de tes frères. Et il vient véritablement l'adorer, le célébrer. Vers l'adorer, Jésus dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. L'incertitude confiante de Pierre a eu un impact puissant sur les autres. C'est pour ça que tout ce que tu vas faire aujourd'hui, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, ne sera jamais innocent, ne sera jamais perdu. Non pas seulement pour toi-même, mais pour tous ceux qui t'entourent, ça va avoir un impact sans même que tu puisses l'imaginer, mais un impact sans précédent. Et c'est pour cela qu'il est normal de se retrouver parfois dans cette incertitude confiante. Marcher sur l'eau, c'est s'engager là où il n'y a pas de chemin. Marcher sur l'eau, c'est accomplir l'impossible par la foi. Marcher sur l'eau est le symbole de l'incertitude absolue, mais en Jésus, c'est rendre possible l'impossible. Le fait de passer par-dessus cette barque, c'est de rentrer dans le possible divin, là où c'est impossible humainement parlant. C'est de rendre possible l'impossible. Et Jésus n'a pas reproché ce qui était dans la barque, mais il tirera toujours vers l'eau, les audacieux. Il te tirera toujours vers l'eau. Il ne reprochera pas ceux qui sont dans la barque, il ne viendra pas pour les écraser, parce que ce n'est pas un Dieu pour ça. Les hommes écraseront les autres, mais Dieu, lui, écrase personne. Et par contre, les audacieux, il va leur parler. Il va parfois même peut-être être un peu dur avec eux. Il dit, oh, il faut te bouger, il faut y aller. Plus de foi, plus d'audace, plus de radiesse. Juste parce qu'il veut te tirer vers le haut. Juste parce qu'il veut te propulser. Juste parce qu'il croit en toi. Juste parce que tu lui fais simplement confiance. Qu'il voudrait honorer cette foi qui est dans ton cœur. Le fait de ne plus prendre le contrôle de notre vie, frères et sœurs, nous met dans l'incertitude contrôlée par Dieu. Ouais. Le fait de perdre ce contrôle sur notre vie nous permet de rentrer dans l'incertitude contrôlée par Dieu. De veille sur toi. Il ne t'a jamais abandonné, c'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Il faut juste que tu lâches prise, que tu passes par-dessus bord, que tu quittes comme Abraham tout ton cocon, tout ton cercle, toute son assurance, tous tes appuis, et que tu t'appuies sur le vrai, l'authentique, le seul Dieu, Seigneur et Sauveur de ta vie. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. C'est ce que le Seigneur voulait faire sur ta vie. C'est à la fois déroutant et rassurant. Déroutant parce que ça nous bouscule. Et puis, d'autres moments, on sait que c'est rassurant parce qu'on sait que Dieu est là. Il y aura des jours dans ta vie où tu seras certain, tu seras sûr, tu seras dans la certitude. Pas de souci. De toute façon, à un moment donné de ta vie, tu vas avoir cette certitude. Mais pour y passer dans cette certitude, il faut que tu apprennes à rentrer dans l'incertitude. Il faut que tu apprennes à t'appuyer sur lui. Parce qu'on n'a pas la science infuse, parce qu'on n'est pas Dieu. Et que ça fait partie du domaine de la foi. Est-ce que vous êtes prêts à cela cet après-midi? Est-ce que vous êtes prêts à saisir cela? Mon frère, ma sœur, arrête de culpabiliser. Brise cette peur. C'est normal ce que tu vis. C'est peut-être même parfois pour toi inquiétant. Tu te dis, mais attends, c'est trop gros et c'est incroyable, laisse faire. Passe, saute la barque, t'inquiète pas. Je ne sais pas si Pierre savait nager. Hein. Ça aurait été intéressant de le savoir parce qu'alors là, ça aurait été encore plus énorme. Mais sache une chose, c'est que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On courbe nos fronts quelques instants. Rester dans le recueillement. Pour bien des gens, il y a que deux choix possibles. Que deux choix possibles pour bien des gens. La peur qui paralyse ou l'illusion qui rassure. On pourrait ajouter la méthode de l'autruche qui consiste à ne pas y penser, ne pas voir la situation, fermer les yeux alors qu'elle est là. Et ce que Jésus te propose en cette journée, c'est rendre possible l'impossible. Même en période d'insécurité. Parce que tu sais que ton Dieu est avec toi. Ce que le Seigneur voudrait te proposer ce matin, c'est vraiment de rester les yeux fixés sur le Maître. Ce que tu vis, c'est normal. Ce que tu expérimentes, c'est tout simplement ce que Dieu attendait de toi. Tu es peut-être incertain, mais tu sais dans ton cœur que Dieu est là. Il y a cette incertitude confiante et ça t'étonne même parfois parce que tu te dis, mais c'est incroyable, je ne sais pas où je vais, comment ça va se faire, et pourtant je fais confiance en mon Dieu. C'est normal. Il y a parfois des moments de doute, d'accusation de l'adversaire qui serait là juste à te susauter à l'oreille, de te dire, mais non, tu n'es pas dans le coup là. Puis je voudrais aussi m'adresser à ces frères et sœurs qui sont restés dans cette zone de confort. On voulait juste se contenter de devenir des Abraham au lieu d'être des Abraham. Tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Le Seigneur n'est pas là pour t'accuser, il n'est pas là pour te montrer du doigt, il n'est pas là pour te faire les reproches de rester dans cette barque, mais il te dit quel dommage. Quel dommage de passer à côté de ta destinée. Quel dommage de passer à côté de ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Certes, ce n'est pas facile parce que tu vas en payer le prix, mais on paye toujours un prix pour gagner. Ça nous coûte de rentrer dans la bénédiction divine. Mais ce qu'on perd, on va le récupérer au centuple. Ce qu'on lâche, le Seigneur va nous le redonner. Juste que tu puisses mettre les bonnes priorités au bon endroit. Abraham était prêt à donner son fils Isaac pour Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour lui aujourd'hui? Ou veux-tu rester dans tes repères? Seigneur, ce matin, vois ces deux personnes qui sont là. Celle qui est dans la barque et celle qui est à l'extérieur de la barque. Celle qui reste dans sa patrie, dans sa maison, et celle qu'il a quittée et qui se retrouve dans cette zone d'insécurité. J'aimerais prier pour vous ce matin. J'aimerais vraiment qu'on puisse nous associer ensemble pour que Dieu touche ton cœur. Que le Seigneur vienne agir dans ta vie. Alors je vais laisser les musiciens nous conduire dans un chant, puissions rester dans le recueillement, mais si vraiment tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu veux que je prie pour toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je te demanderai de te lever à ta place. Et à l'issue de ce chant, je vais prier pour toi. Nous allons nous associer afin que Dieu impacte ta vie. Nous allons nous unir dans la prière afin que Dieu touche ton cœur et t'amène vraiment à aller plus loin avec Dieu ou peut-être juste te sortir de cette barque afin de pouvoir saisir l'insaisissable et rendre possible ce qui est impossible. Au nom de Jésus, alléluia. J'aimerais... Jésus.
Mon esprit qui te loue.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Entends les chants d'amour.
Amen. Gloire à toi, Jésus.
D'un enfant racheté.
Amen.
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas
Alléluia.
Te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
Tu entends nos cœurs, alors, Seigneur Jésus. Alléluia.
Alors entends,
tu entends
mon
cœur de mon frère, de ma soeur, Seigneur, ce matin.
Mon esprit te loue.
Alléluia. Chante-moi comme de l'osseau, il va là-bas de l'osseau.
Entends le chant d'amour.
Oh, chant Jésus.
D'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
Entends mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te prier, Seigneur, ce matin. Tu entends le cœur de mes frères, de mes sœurs dans ce lieu. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi maintenant. Nous voulons te demander, Seigneur, de toucher, d'impacter leur vie. Alléluia. Seigneur, tu vois, Seigneur, celui, celle qui est dans cette zone, Seigneur, d'insécurité, dans cette zone, Seigneur, d'incertitude, dans cette zone, Seigneur Jésus, où on ne peut que te faire confiance, appuyer sur toi. Je veux te prier ce matin, te demander d'étendre tes mains, d'agir puissamment dans ces vies. Seigneur, d'agir avec en profondeur dans leur cœur, alléluia. Tu es en train de préparer, Seigneur, leur avenir. Tu es en train d'installer, d'asseoir, Seigneur, leur futur. Seigneur, touche-les maintenant. Au nom de Jésus, alléluia. Que la grâce soit sur eux, amen. Que la puissance soit sur eux, Seigneur Jésus. Seigneur, embrase ces cœurs. Enlève toute peur, toute crainte. Enlève toute retenue ce matin, Seigneur. Et viens transformer l'intransformable. Viens apporter, Seigneur, le possible là où c'est impossible. Agis dans ses cœurs et dans ses vies. Seigneur, je veux te prier pour celui, celle qui peut-être est encore dans cette barque, avec cette peur, cette crainte, avec cette retenue, Seigneur, avec des blessures, des frustrations. Seigneur, de voir la bénédiction chez les autres, alors qu'eux, Seigneur, sont simplement l'ombre d'eux-mêmes. Seigneur, touche-les là où ils sont. Seigneur, agis dans leur vie maintenant. Seigneur, tu n'es pas là, Seigneur, à montrer du doigt. Tu n'es pas là à les accuser. Tu n'es pas là à les écraser. Tu es là, Seigneur, pour les stimuler ce matin. Les encourager ce matin, Seigneur. Les amener, Seigneur, et les tirer vers le haut nom de Jésus-Christ. Alors touche-les maintenant. Agis, Seigneur. Pose ta main puissante. Pose ta main puissante. Toi qui es dans cette barque, Seigneur te demande de régler tes affaires. Parce que le Seigneur vient de te toucher, tu as envie de passer par-dessus bord. Mais si tu ne règles pas tes affaires de pardon, de réconciliation à l'égard de tes proches, dès que tu vas mettre le pied sur l'eau, tu vas couler. Le Seigneur te demande de régler cette affaire maintenant. D'avoir cette démarche de pardon, d'avoir cette démarche de réconciliation. Depuis longtemps, tu dis, mais ce n'est pas à moi de faire cette démarche, c'est à cette personne. Mais Dieu te demande de faire cette démarche de foi, de pardon, de réconciliation, de restauration, d'unité. Parce que c'est à partir de là que tu vas rentrer dans cette zone de bénédiction. Et Seigneur te demande de faire cette démarche simplement maintenant. Ne regarde pas à savoir qui a tort, qui a raison, à qui la faute. Dieu te demande d'obéir. Préparer le terrain, d'aplanir les sentiers, afin que tu puisses rentrer dans ce à quoi le Seigneur t'appelle. Il y a des conditions, et Dieu te demande de commencer par celle-ci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix quelques instants? Élevons nos voix, louons le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre quelques instants à louer le Seigneur. Adorons notre Dieu maintenant. Élevons nos voix ensemble. Alléluia Jésus. Alléluia, Jésus, gloire à toi, Seigneur. Grande le chambara badre solo barabandra barabadre shibara bandre solo. Jésus, 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 alléluia. Grande le chambara badre belle quand le shibara babalindre solo barabadre. Élevons-nous ensemble. Je veux vous entendre louer le Seigneur. Je veux vous entendre adorer notre Dieu, notre Père. Adorer celui qui est, qui était, qui sera, alléluia. Grand Baba Kandra Shadra Solo, Baba Kandra Shadra Solo. Seigneur, étends tes mains dans ce lieu, Jésus. Seigneur, entends nos louanges. Entends cette adoration, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire et louange à notre Dieu ce matin. Alléluia. Grand Baba Kandra Shadra Solo, Baba Kandra Shibara Kadra Solo. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bon retour à tous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans sa paix et son amour.